VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Tchad, les leaders de l'opposition maintiennent leur appel en faveur d'une journée ville morte sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, alors que le président Idriss Déby Itno est investi le même jour pour un nouveau mandat de 5 ans en présence de nombreux chefs d'État africains comme ses voisins du Soudan Omar al-Béchir et de RCA Faustin Archange Touadéra. N'Djamena est le théâtre depuis ce week-end de violents heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants de l'opposition. Rejoignons dans la capitale tchadienne notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Un militant grièvement blessé par balle a succombé dans un hôpital de la place. Le président du Parti socialiste sans frontières, Dinamo Daram, membre du FONAC qui a été brièvement interpellé par la police, a déclaré à sa sortie que cette intimidation n'entame en rien la détermination de l'opposition.
Déby est illégal, illégitime et nous allons continuer à manifester jusqu'à notre dernier souffle.
Salih Kebzabo, coordonnateur du FONAC, insiste sur le caractère légal de la lutte de l'opposition.
Les militants de l'UNDR, du PLD, de Capsule, qui étaient en meeting, n'ont pas porté atteinte à l'ordre public. Ils étaient dans le siège d'un parti politique. Et c'est à l'intérieur là qu'on les a gazés. Ça, c'est une action criminelle.
C'est sous cette tension politique que le président Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, est réinvesti. Quelques Tchadiens parlent de leur attente pour ce nouveau mandat.
On veut seulement la liberté et la cherté de vie. Il faut que ça change un peu. Le retard des paiements des fonctionnaires aussi.
Nos opposants s'arrêtent à donner des idées qui ne sont pas à leur place. On a choisir un président, que le président se mette au travail pour le peuple tchadien.
André Kodmajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
En RDC, 7 personnes tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Kibirizi, localité située à 85 km au nord-ouest de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette attaque a eu lieu quelques heures après que le président congolais Joseph Kabila, qui séjournait dans la région depuis mercredi, eut quitté cette zone en proie à des troubles à caractère communautaire. Déogracias Kitabingwa, délégué du gouverneur du Nord Kivu, a attribué l'attaque à des rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Au Congo-Brazzaville, les appels continuent en faveur d'un dialogue politique capable d'apaiser les tensions encore palpables dans le pays. Plusieurs opposants, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, sont toujours détenus, alors que les manifestations des partis qui contestent la réélection du président Denis Sassou Nguesso sont interdites. Une partie de la classe politique et de la société civile préconise donc le dialogue, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Un dialogue politique est-il toujours possible dans le pays? La question se pose partout et plusieurs acteurs politiques y croient dur comme fer. Omer Defundu, du mouvement Sauvant le Congo.
À force de persévérer, nous aurons le dialogue comme l'exige le peuple en ce moment. Et de toutes les façons, la situation de blocage que nous vivons nous conduit à faire quelque chose pour sortir de ce blocage. Faire autrement, c'est continuer encore avec beaucoup de malheurs, beaucoup d'arrestations, beaucoup de tueries, beaucoup d'assassinats, parce que les gens qui ne sont pas contents vont toujours manifester.
Paul-Marie Pouillet, président du Rassemblement des jeunes républicains, lui, pense même que le dialogue devra être la nourriture quotidienne en politique.
Pour aller discuter, nous sommes des Congolais, il n'y a personne qui sera un apatride ici. Nous sommes tous des Congolais, nous avons besoin de discuter, de nous parler pour que nous ayons des solutions à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. C'est le cri de cœur que je lance à toute la classe politique, à tous les Congolais, se parler sans jamais se lasser de discuter.
Le Premier ministre Clément Mouamba avait annoncé devant l'Assemblée nationale que le dialogue politique sera au cœur de son action. Mais de quoi sera-t-il question à ce dialogue s'il venait à avoir lieu? Le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, Pierre Ngolo, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, estime que l'élection présidentielle est terminée et que le vainqueur est connu. Pourquoi un autre dialogue? C'est Clément Mirassa de la coordination du FROCAD qui lui apporte la réponse.
S'il faut aller recompter les voix, on ira recompter, mais les résultats aujourd'hui ne traduisent pas. Et on traque les opposants, les réduire au silence, faire en sorte qu'il n'y ait pas de liberté de circuler. Pourquoi? Si tant l'assurance était là dans la victoire et dans la conduite des affaires de l'État.
Pour le coordonnateur de l'IDC, Charles Zachary Bouaou, aucune question ne sera esquivée pendant cette rencontre.
Toute la question de la démocratie congolaise dévoyée nous interpelle. Vous connaissez ce qui s'est passé dans ce pays le le 25 octobre. C'est un coup d'État. Ce qui s'est passé le 20 mars, c'est un hold-up électoral. On a beau dire ce que l'on veut, mais tout le monde, en interne comme en international, l'a compris. Voilà pourquoi, dans cette démarche, nous continuons à appeler à un dialogue inclusif pour que, se mettant ensemble, les Congolais puissent travailler à sortir de l'insalubrité public dans laquelle nous baignons.
À exactement une semaine de la célébration de la fête de l'indépendance du pays, de nombreux Congolais continuent à appeler à l'apaisement général. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Présidentielle à São Tomé et Principe, le seul candidat en lice, Evaristo Carvalho, devrait être déclaré sans surprise nouveau président avec 38% des suffrages des électeurs inscrits, selon des résultats provisoires de la Commission électorale nationale. Seul inscrit pour le scrutin de dimanche après le retrait de son rival, le président sortant Manuel Pinto da Costa, M. Carvalho a recueilli 42 058 voix sur les quelques 111 000 électeurs inscrits, d'après les résultats publiés dans la nuit de dimanche à lundi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, la mission de l'ONU sur place, la MINUSMA, a été de nouveau la cible d'attaque dans le nord du pays. L'explosion d'une mine dans la région de Kidal a fait un mort et 4 blessés, tandis qu'une seconde mine n'a pas fait de victime. Chérubin Dorsil.
Selon un responsable de la MINUSMA, que cite l'agence France-Presse, les victimes sont toutes des Tchadiens, dont un casque bleu. Le communiqué de la mission onusienne précise que le véhicule qui les transportait et qui accompagna un convoi logistique, a sauté sur une mine vers 6h50 du matin à environ 11 km au sud d'Agelrok à Néfis. La seconde explosion, survenue environ 2h30 plus tard, n'a causé que des dégâts matériels. Là encore, un véhicule de la mission était la cible. La MINUSMA, qui a perdu une trentaine de soldats en un an, a réaffirmé que de tels actes n'auront pas d'effet sur son soutien aux efforts de paix dans le nord du Mali. Mais il n'y a pas que le nord à être visé. Des attentats ont également eu lieu dans le centre et le sud du pays. Fin juin, l'ONU a renforcé le mandat et les effectifs de la MINUSMA, tout en clarifiant sa mission d'assistance au gouvernement de Bamako dans le cadre de ses initiatives pour la paix et la réconciliation au Mali.
La Somalie désignera le 30 octobre son nouveau président au terme d'un processus électoral au suffrage indirect. Au total, 14 000 délégués choisis par les clans voteront par étapes successives pour élire les 54 représentants d'une nouvelle chambre haute d'ici le 25 septembre. Puis les 275 députés de l'Assemblée nationale, dont 30% seront des femmes, du 24 septembre au 10 octobre. Ces grands électeurs, sénateurs et députés, se réuniront le 30 octobre pour élire le nouveau président de la République. L'actuel chef de l'État, Hassan Cheikh Mohamud, a d'ores et déjà indiqué qu'il était candidat à sa succession pour un second mandat. Campagne présidentielle américaine maintenant, le candidat républicain Donald Trump prononcera un discours sur son plan économique aujourd'hui à Détroit dans le Michigan. Et sa rivale démocrate Hillary Clinton en fera de même vendredi, également dans la capitale américaine de l'automobile. Par ailleurs, Donald Trump émet publiquement des doutes sur la santé mentale de Mme Clinton, alors que la campagne entre les deux rivaux ne cesse de s'intensifier. Jean-Roger Bion.
Prenant la parole samedi dans l'État du New Hampshire, Donald Trump a qualifié Hillary Clinton de personne totalement déséquilibrée. Il s'est aussi moqué du commentaire de la candidate qui avait dit plus tôt qu'elle avait court-circuité en répondant à une question sur sa franchise dans cette affaire de serveur de messagerie privée qu'elle utilisait alors qu'elle dirigeait la diplomatie américaine en 2009 et 2013. La campagne de Clinton a regretté que la seule méthode de Donald Trump de faire face à une semaine désastreuse pour sa campagne est de se lancer dans de nouvelles attaques personnelles absurde. C'était la première visite du magnat de l'immobilier dans le New Hampshire depuis la primaire de février qu'il avait remportée par une grande marge. Mais un sondage la semaine dernière dans cet état du Nord-Est donnait une avance de 15% à Mme Clinton. Un nouveau sondage Washington Post ABC News publié hier dimanche a montré que la démocrate maintenait 8 points d'avance sur Trump à l'échelle nationale, soit 50% contre 42%. À noter cependant que près de 60% de l'électorat reste insatisfait du choix entre ces deux candidats. Hillary Clinton va chercher à renforcer sa position de leader de la cause. Cette semaine a commencé par des meetings, aujourd'hui en Floride et à New York.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.